France Inter,
franceinter.com.
Nous sommes en train de réaliser un exercice à caractère militaire. Nous voulons démontrer ainsi les capacités de la guérilla des FARC et de ses colonnes de combat disséminées dans diverses régions du pays.
Ans d'histoire. L'homme dont on vient d'entendre la voix enregistrée en 1985 est aujourd'hui le plus vieux guérillero du monde. Né le 12 mai 1928 dans le Quindío, à l'ouest de Bogota, il s'appelait Pedro Antonio Marín, mais il est devenu célèbre sous le pseudonyme de Manuel Marulanda. Comme tous les dirigeants des FARC, les forces armées révolutionnaires colombiennes, il porte aussi un surnom, Tiro Firo, celui qui vise juste. Pendant 40 ans, caché au cœur de la forêt colombienne, loin des caméras, des micros et des journalistes de la presse occidentale, il a mené à la tête des FARC un combat dont presque personne en France n'avait jamais entendu parler, jusqu'au 24 février 2002. France Inter, Philippe Abitboul.
France Inter. En Colombie, les craintes étaient justifiées. Ingrid Betancourt, la candidate écologiste à la présidentielle, et sa directrice de campagne ont bel et bien été enlevées par les guérilleros des FARC, les forces armées révolutionnaires marxistes. Surnommée la Jeanne d'Arc colombienne, elle menait un combat sans merci contre la corruption et les trafiquants de drogue. Un combat qui, elle le savait, n'était pas sans risque.
C'est un risque. Vous savez, faire de la politique en Colombie, ce n'est pas comme faire de la politique en Suède. Donc il faut assumer ce risque. Il faut aussi se dire qu'il y a des batailles qui sont supérieures à la vie elle-même. Et je crois que la Colombie a besoin que des gens soient prêts à mourir. Il faut assumer. Je crois que c'est notre devoir et je pense que c'est le défi de notre génération.
Daniel Pecot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de la Colombie. C'est un pays vraiment dont on ne parle aujourd'hui qu'à cause des FARC et depuis seulement l'enlèvement d'Ingrid Betancourt en 2002. Avant, on parlait à peine de ce pays, peut-être parce que c'est un des rares pays d'Amérique latine à n'avoir pratiquement pas connu de dictature ou de coup d'État militaire.
C'est tout à fait vrai. C'est un régime qui n'a connu, un pays qui n'a connu qu'un régime militaire et à peine militaire dans les années 53-57. Et c'est un pays qui, à la fin des années 1930, contrairement à la plupart des autres pays d'Amérique latine, échappait à la fois à l'influence de l'armée, qui ne connaissait pas de mouvement populiste, qui avait connu en 1930 une alternance entre les deux partis qui se disputaient le pouvoir et qui, de 1930 à 1946, avait connu une période qui avait été appelée par beaucoup de gens comme une période de révolution en marche, c'est-à-dire de progrès sociaux relatifs, appuyé, qui recueillait l'appui du Parti communiste, le gouvernement au pouvoir. Et tout cela paraissait un pays engagé sur la voie du progrès et dans la tranquillité.
Parce qu'il y a effectivement une opposition aux deux grands partis qui, depuis 1850, ils ont été créés à cette époque-là, le Parti libéral et le Parti conservateur. Il y a une opposition, vous venez de la citer, le Parti communiste, Daniel Pecot.
Le Parti communiste...
Et qui est assez, enfin, disons qu'il se manifeste à partir des années 1930.
Se crée en 1930, c'est un petit parti, en définitive, très proche du Parti libéral, jusqu'aux années 1948, mais qui présente cette originalité de s'implanter principalement dans des zones paysannes. Il y a en Colombie, pas loin de Bogota, des zones de conflits agraires très intenses au moment de l'essor de l'économie du café, Et ces conflits agraires vont fournir l'occasion d'un encadrement par les militants communistes.
Enfin, c'est quand même donc un pays plutôt paisible jusqu'au déclenchement en 1948 d'une guerre civile extrêmement meurtrière, sans laquelle on ne pourrait expliquer le développement des FARC, et une guerre civile provoquée cette année-là en 1948 par l'assassinat du leader libéral Jorge Gaitán.
Bogota vient de vivre des heures dramatiques. Une émeute suscitée par le meurtre du leader libéral Gaitán s'est déclenchée. Une foule portant le buste de la victime et traînant le cadavre de son meurtrier a déferlé dans les rues de la ville et envahi le palais où se tenait la conférence panaméricaine. Le désordre, le pillage et l'incendie se donnaient alors libre cours dans le centre de la ville conquis par les émeutiers et l'on devait par la suite apprendre que 300 personnes avaient été victimes de la folie meurtrière des insurgés. La loi martiale proclamée, les forces gouvernementales devaient enfin rétablir l'ordre après 3 journées de pillage et d'excès de toutes sortes.
Et c'était le début d'une longue période de violence qui n'a pas duré 3 jours, comme on vient de l'entendre dans cette vieille archive, mais qui a duré à peu près 10 ans, que les Colombiens appellent la violencia et que vous comparez, Daniel Pecco, dans un des articles nombreux que vous avez écrits sur ce pays, à la guerre civile espagnole, tellement elle était violente.
Par la cruauté, oui. Je voudrais revenir sur l'assassinat de Gaitán.
Oui, alors justement.
Parce que l'émeute a duré 5 jours. La répression a fait quelque chose comme 5000 morts et cela a provoqué une émotion dans tout le pays. Dans tout le pays se sont constitués des groupes qui voulaient en quelque sorte venger le leader tellement populaire qui avait été assassiné. Et d'autre part, à partir de ce moment-là, se produit un raidissement d'une partie des élites politiques face à cette peur qu'elles ont eue lors de l'assassinat de Gaitán et qui va aboutir, oui, à un des régimes conservateurs, ultra-réactionnaires, influencés par le franquisme. Et c'est ça qui va encore plus précipiter les phénomènes qui vont durer des années, que l'on appelle les phénomènes la violencia.
200 000 morts, c'est-à-dire pour un pays qui est 4 fois moins peuplé que la France, eh bien à l'échelle de la France, ça ferait 800 000 morts en France.
C'est une tuerie gigantesque, avec une cruauté comparable à celle de la guerre d'Espagne, sauf que, d'une certaine manière, il n'y a même pas deux camps clairement définis, mais les tueries se font de village à village selon l'affinité politique entre conservateurs, libéraux. C'est là qu'à ce moment-là que se forment des guérillas contre le régime en place, qui est le régime conservateur que je viens de dire ultra-réactionnaire. Des guérillas qui sont des guérillas libérales. Surtout, les plus fortes guérillas sont des traditions
du Parti libéral.
Oui, c'est ça. Dans la grande tradition de la Colombie, lorsqu'on estime qu'un gouvernement est injuste, on crée des groupes armés pour essayer de le renverser. Et c'est à côté de ces grandes guérillas libérales que commencent aussi à se différencier des guérillas communiste.
Alors, il y en a plusieurs, hein, justement, il faut le rappeler, il n'y a pas que les FARC. D'ailleurs, les FARC, à l'époque, ne sont pas nécessairement les plus importants. Je voudrais que vous nous les rappeliez, Daniel Pecco. D'abord, il y a, et c'est assez, on le comprend, puisque c'est l'époque précisément où Che Guevara arrive en Bolivie, il y a l'ELN, hein, c'est-à-dire l'Armée de Libération Nationale, qui est d'inspiration guévariste.
Qui est d'inspiration guévariste et avec pas mal d'échos parmi l'Église progressiste et qui va ensuite être très influencée par la théologie de la libération.
Oui, parce que vous dites que ce sont deux ecclésiastiques, dont l'un a été très célèbre, qui était Camilo Torres, mais ensuite c'est un autre, Manuel Pérez, qui l'a dirigé, c'est l'ELN pendant des années.
Manuel Pérez a dirigé pendant des années, qui était un curé espagnol.
Alors, autre formation politique, elle aussi marxiste, mais maoïste, c'est l'EPL, l'Armée Populaire de Libération Nationale.
Qui se crée à la même époque, tout ça dans la foulée de la révolution cubaine, et qui va pendant des années, jusqu'à 1990, s'implanter dans certaines régions, notamment les régions où se font les cultures de bananes.
Alors, autre mouvement apparu plus tard, qui n'est pas marxiste, celui-là, c'est le M19.
Le M19, qui est un mouvement qui surgit à partir de 1974-75, et qui est un mouvement qui se veut beaucoup moins dogmatique, beaucoup plus ouvert, et qui ensuite va être beaucoup plus influencé par les mouvements armés de l'Amérique centrale et peu à peu avoir une vision très militaire de la possibilité de combattre le régime et de le renverser par militairement.
Et qui s'appelle le M19, vous le rappelez, Daniel Pécaud, parce qu'il protestait contre le trucage des élections du 19 avril 1970. Et puis enfin, celui auquel nous intéressons aujourd'hui, les FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes, soutenues par le Parti communiste, apparues en 1964 au moment de ce reportage de 5 colonnes à la une, où 2 journalistes étaient présents au moment où les FARC étaient attaqués par l'aviation colombienne.
Un jour, à 6 heures du matin, c'est l'attaque. Le village sera bombardé pendant 6 heures. Mais on s'y attendait et il était désert. Quand l'armée prendra possession des ruines, elle publiera ce communiqué de victoire. Mission accomplie, Rio Chiquito est rentré dans la vie nationale. Le commandant Manuel Marulanda, surnommé Tiro Fijo, tir juste, est un homme célèbre. Ennemi public numéro un pour les autorités qui ont mis sa tête à prix, c'est un héros presque légendaire parmi les paysans pauvres de la Sierra.
Camarades, todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación.
Camarades, vous avez tous lu la dernière feuille de propagande lancée par l'aviation du gouvernement. Mais cette propagande est mensongère.
Comme la propaganda negra de los mandos militares.
Sueños de libertad viven conmigo perennemente. Soy guerrillero de la FARC, soy del 19 frente. El día en que yo me muera, el pueblo mi arma tomará. Soy guerrillero de la FARC.
Alors, le reportage que l'on va entendre, Daniel Pécaud, c'est sûrement un des tout premiers reportages sur les FARC, puisqu'il a été enregistré au moment où elles apparaissaient en 1964, même si le reportage a été diffusé plus tard en 1966 à la télévision sur 5 colonnes à la une. Et on vient d'entendre, et on l'entend très rarement, cette voix on la connaît peu, mais on l'entendait certainement pour la première fois, c'est celle de l'homme dont on parle beaucoup en ce moment, Manuel Marulanda, le chef historique des FARC, qui avait à l'époque 37 ans, il en a maintenant 80, mais il avait déjà à 37 ans un passé politique important, Daniel Pécaud.
Tout à fait.
Une expérience de la guérilla.
Il est entré dans la résistance et dans ces formes de guérilla qui étaient des guérillas au début liées au Parti libéral et ensuite qui évoluent vers l'influence du Parti communiste. Il y est entré en 1950. Et c'est un homme qui a vécu toute sa vie dans cette clandestinité et qui devient ce héros au moment où, effectivement, ce qu'on appelle à ce moment-là des zones d'autodéfense paysanne, c'est-à-dire où les paysans se sont organisés et se réclament du Parti communiste, mais dans des zones de conflits agraires pour réclamer leurs droits sur la terre, ces zones sont bombardées parce qu'elles sont considérées comme menaçantes au moment, toujours, où intervient la révolution de Cuba. Et donc, il y a cette destruction qui va entraîner, non pas que les villages sont rasés, etc., mais le fait que la population, c'est-à-dire les guerrilleros et leurs familles, sont obligés de commencer un exode vers bien d'autres régions qui va les amener, des années plus tard, jusqu'à vers l'Amazonie.
Quel est le programme des FARC, Daniel Pécaud, puisqu'elles sont, à l'évidence, elles se reconnaissent dans le marxisme?
Les FARC officiellement se constituent comme en 1966, 2 ans après ce bombardement. Leur programme est un programme de réforme agraire, au départ, des plus modérés, c'est-à-dire la terre pour ceux qui cultivent la terre, du crédit pour les paysans, avec aussi une mention de la nécessité de changer les institutions politiques. Mais cette mention n'est pas ce qui est noté et remarqué à l'époque. Véritablement, ce qui compte, c'est la réforme agraire, la demande de réforme agraire.
Alors, elles vont lutter. Au début, elles ne sont pas très importantes, les FARC, et puis petit à petit, elles vont en prendre parce qu'on va voir décliner ou disparaître même les autres guérillas dont nous avons parlé, le M19, le PL, une partie de l'ELN guévariste. Hein, le contexte n'est moins favorable après la disparition justement de Che Guevara et de ses guérillas, mais les FARC continuent. Elles-mêmes d'ailleurs sont tentées à un moment donné par l'exercice direct du pouvoir, de renoncer aux armes. C'est après un accord signé en 1982, et les FARC créent un parti politique en bonne et due forme. Elles sortent de la clandestinité, c'est l'Union populaire.
En 1985, elle crée effectivement un parti, l'Union patriotique.
Patriotique, pardon.
Qui est une manière de dire qu'elles entendent revenir à la légalité. En réalité, le Parti communiste, depuis 1961, a toujours eu comme ligne la combinaison des formes de lutte, c'est-à-dire à la fois la lutte armée et la lutte légale. La création de l'Union patriotique en 1985 semble indiquer qu'il y a un choix important pour la voie légale. Beaucoup de militants, pas simplement des militants communistes, vont se mettre dans ce parti, et ça, cela va aboutir à une extermination perpétrée par tous ceux qui ont peur de cette gauche, de tout changement, une extermination faite à la fois par un mélange de narcotrafiquants, de politiciens locaux. 2500 membres de l'Union patriotique, c'est-à-dire énormément des cadres du Parti communiste, sont tués.
Éliminés par quelque chose, un acteur très important de ces combats en Colombie, c'est les organisations paramilitaires, Daniel Pecot.
C'est le début des organisations paramilitaires. À ce moment-là, on peut les qualifier
contre
surtout
les FARC,
de groupes d'assassins organisés, travaillant pour le compte des uns ou des autres. À partir de 1994-95, ils vont prendre une toute autre dimension, puisqu'ils vont commencer contre les FARC la récupération d'immenses territoires, et cela en agissant de la manière la plus brutale, veut dire à travers des atrocités systématiques.
En tout cas, l'élimination des dirigeants de l'Union patriotique rejette les FARC dans le maquis où elles continuent de se battre. Écoutez ce reportage d'Yves Billon pour le magazine d'Antenne 2 de Michel Honorin en 1985.
Les FARC, Force armée révolutionnaire de Colombie, ont pris les armes depuis plus de 20 ans et sont considérées, bien qu'elles s'en défendent, comme la branche armée du Parti communiste. C'est de loin la guérilla la mieux organisée et la plus nombreuse parmi celles qui se partagent les montagnes du pays. Jacobo Arena et Manuel Marulanda ont toujours dirigé la lutte des FARC. Ils sont devenus des héros légendaires. 100 fois leur mort a été annoncée à grand fracas. 100 fois ils ont ressuscité au cours d'actions glorieuses. Manuel, alias Tiro Fijo, celui qui ne manque jamais sa cible, circule d'un camp à l'autre. Grand stratège, il organise et entraîne ses troupes pour le matin du grand soir.
Jusqu'à ce jour, il semble que je sois vraiment le plus ancien guérillero de Colombie, et peut-être même du monde entier. J'ai 30 ans de guérilla, 35 ans ou 33 ans, je ne sais pas exactement. Personne n'a résisté aussi longtemps.
Et c'était un reportage en 1985, 20 ans après le premier reportage que l'on a entendu tout à l'heure. Comment expliquer la longévité des FARC, Daniel Pecot, malgré un contexte qui semble devenu défavorable? Alors, vous expliquez quand même qu'elles ont beaucoup évolué entre-temps, et notamment grâce à des ressources qui discréditent un peu, évidemment, leur action, à commencer par la drogue.
C'est au début des années 1980 que les FARC abandonne complètement des stratégies d'autodéfense, etc., pour se lancer dans des actions offensives. Et cela, grâce effectivement aux ressources économiques dont elles vont disposer. Il y en a au moins trois. D'un côté, les enlèvements systématiques que les autres guérillas pratiquent aussi, en particulier l'ELN n'a cessé en pratique jusqu'à aujourd'hui.
Il y en avait jusqu'à 3000 par an, enfin c'était considérable ces enlèvements.
En 2000, il y a 3000 enlèvements. Ce sont les enlèvements dits économiques pour obtenir des rançons. Les FARC, sur 10 ans entre 1995 et 2005, sont responsables de plus de 30% de ces enlèvements. Donc, il y a les enlèvements. Il y a les extorsions sur toute une grande partie des activités économiques, plus le fait que lorsqu'elles contrôlent des municipalités, elles orientent aussi les contrats publics. Et il y a de plus en plus la drogue. la drogue sous différentes formes. Au début, elle prélève une taxe sur les cultivateurs de la drogue, qui après tout sont leur clientèle et auxquels elles assurent une protection face aux narcotrafiquants pour arriver à négocier. Par la suite, elle s'implique de plus en plus dans la production, dans les laboratoires et dans la protection des pistes qui servent aux narcotrafiquants pour sortir la drogue. Et finalement, dans les dernières années, on peut estimer que la drogue représente 60 à 70% des ressources des FARC.
Alors c'est ce qui leur permet de tenir et même de se développer, de conquérir des territoires de plus en plus importants. Et cela, malgré des politiques de main tendue. On a évoqué 1982, mais effectivement, les FARC avaient été trahis. Et puis en 1999, c'est le gouvernement du président Andrés Pastrana qui accordait aux FARC une zone démilitarisée de 42 000 km² et acceptait des négociations au début desquelles Marulanda n'avait même pas daigné venir. C'était sur France Inter, écoutez, Éric Bataillon, le 7 janvier 1999.
C'est donc l'un des trois négociateurs désignés par la guérilla, Joaquim Gomez, et non Manuel Marulanda, qui s'est levé pour lire un texte signé du chef historique des FARC. Quand vint son tour de monter à la tribune, le président Andrés Pastrana a lu avec gravité le discours qu'il devait préparer depuis longtemps et dans lequel il s'engageait résolument sur le chemin de la paix.
Sabemos que los ojos de todos, de cada trabajador.
Nous savons que les yeux de tous, de chaque travailleur, de chaque paysan, de chaque déplacé, de chaque soldat, de chaque guérillero, nous regarde. L'absence de Manuel Marulanda Vélez ne doit pas nous empêcher d'établir un calendrier de négociation, un calendrier qui doit déboucher sur la paix.
C'est extraordinaire ce refus pratiquement des mains tendues que tendait Pastrana il y a quelques années. C'était il y a 9 ans déjà et la paix n'est pas revenue. Comment expliquer cela? Est-ce que c'est de la cause des FARC, à cause des FARC, à cause du gouvernement bolivien?
En tout cas, il faut dire que le président s'était vraiment engagé dans cette négociation. Pastrana a été rencontré deux fois dans la forêt Marulanda. Les raisons de l'échec. Premièrement, les FARC n'étaient pas disposés à s'engager en politique, n'ont jamais fait de proposition au cours des 3 ans et demi qu'ont duré les négociations qui auraient permis quelque avancée que ce soit. Deuxièmement, il y avait le fait que les groupes, les organisations paramilitaires étaient en train de prendre de plus en plus d'importance, de récupérer de plus en plus de territoires, ce qui ne pouvait pas manquer d'inquiéter les FARC.
Mais pourquoi? Parce qu'elles voulaient garder aussi peut-être le bénéfice de leurs ressources, c'est-à-dire la drogue, c'est-à-dire les rançons demandées pour les otages.
Et qu'à ce moment-là, elles étaient à peu près convaincues qu'elles pouvaient l'emporter militairement. C'était l'époque où elles venaient de remporter jusqu'à 98 des succès militaires incroyables sur l'armée, sur les unités d'élite de l'armée, avaient 500 prisonniers militaires, menaçaient Bogota et menaçaient Medellín, avaient des groupes disposés autour de ces deux villes, s'étaient infiltrés à travers des groupes de miliciens dans ces villes. Donc elle pensait véritablement qu'elle pouvait disposer du pouvoir et que la zone démilitarisée de 42 000 km² leur permettait d'accroître encore leur recrutement, donc que la victoire était une chose possible.
Et cela quand même en multipliant, d'abord il y a une violence considérable de la part des FARC aussi, et notamment la prise d'otages, non plus d'otages économiques entre guillemets, mais de séquestrés politiques avec Ingrid Betancourt enlevée en 2002, Daniel Pecot.
C'est une innovation. Un certain nombre d'enlèvements sont baptisés enlèvements politiques et qui doivent servir pour une négociation le jour venu comme une monnaie d'échange. Ça va concerner une cinquantaine de personnes à un moment donné, dont Ingrid Betancourt et un certain nombre de membres du Congrès colombien.
En tout cas, un nombre d'otages qui détournent de plus en plus, des méthodes qui détournent de plus en plus des FARC, une bonne majorité de Colombiens, dont évidemment les familles des otages qui n'ont pas d'autres ressources que de s'adresser à eux dans une émission à la radio où l'on entendait, que l'on pouvait entendre il y a un an dans Et pourtant elle tourne, c'était l'émission Las Voces del Secuestro, la voix des otages.
Las voces del secuestro, El primer programa de la radio hispana en el mundo para secuestrados en Colombia.
Bonjour mon chéri, je te souhaite un très bon anniversaire. J'espère que nous pourrons très bientôt le fêter ensemble avec toi pour pouvoir te prendre dans mes bras et t'embrasser.
Alberto, comme toujours, je t'embrasse très fort. Dieu te protège, nous allons être avec toi toute la nuit.
Trois années dans la jungle, ligoté, bâillonné, entouré de ces dingues, ces douze illuminées qui t'ont faite prisonnière, otage précisément de leur triste guerre, perdue depuis longtemps. Eux qui voulaient jadis la liberté, le droit, crachent sur la justice en s'en prenant à toi. Ils méprisent la vie et la femme que tu es. Au bout de leur fusil, la victoire est fanée. Nous t'attendons, Ingrid, et nous pensons à toi, et nous ne serons libres.
Et aujourd'hui, ce n'est pas trois années, mais six ans qu'Ingrid Betancourt est dans la jungle, entre les mains des FARC. De plus en plus isolés, même sur le plan international, cette chanson le montre bien. On a l'impression que leur combat est totalement dévoyé aujourd'hui, Daniel Pecot, par rapport à leurs idéaux d'origine.
C'est tout à fait vrai, leur combat est dévoyé. Le fait nouveau, c'est que, d'une part, militairement, elles sont affaiblies. Plusieurs de leurs leaders importants ont été tués au cours des deux dernières années. Il y a une certaine démoralisation. Les désertions, pour la première fois, deviennent très nombreuses. En quatre ans, on compte plus de 4000 déserteurs, parmi lesquels déserteurs et qui avaient 20 ans ou 15 ans d'ancienneté dans la guérilla. C'est un phénomène nouveau. Et donc, on a l'impression...
Des jeunes aussi, parce que les FARC recrutaient beaucoup de très jeunes.
Tout à fait. Il y a énormément de mineurs dans les rangs des FARC. Des mineurs 13 ans, 14 ans. Et on a l'impression que, du coup, c'est ce qui explique l'importance des FARC maintenant pour profiter de l'outil qu'elles ont, les otages politiques, Ingrid Betancourt notamment, pour essayer de porter la question sur le plan international à travers les accords qu'elles ont pu faire avec Chavez d'un côté, et d'autre part pour essayer de faire qu'il y ait autour de ce problème de l'échange entre otages et des prisonniers des FARC qui sont aux mains du gouvernement, une possibilité de discussion politique. Et encore une fois, on a l'impression que, à nouveau, face à leurs difficultés militaires, à leur démoralisation, elles s'efforcent de revenir sur un plan diplomatique et éventuellement politique.
Merci Daniel Pecot. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs articles sur l'histoire des FARC, dont deux très récents, Les FARC, longévité, puissance militaire, carence politique, publié dans la revue Hérodote en décembre 2006, ainsi qu'un nouvel article qui doit paraître début avril dans le prochain numéro de la revue Problèmes d'Amérique latine. Je signale aussi que vous êtes l'auteur d'un livre sur les FARC qui doit paraître bientôt, Les FARC, une guérilla sans fin, point d'interrogation, et qui sera publié aux éditions Ligne de Repère. À lire aussi FARC, confession d'un guérillero de Pascal Drouot, publié aux éditions Choiseul, Ingrid de Sergio Coronado, publié chez Fayard, ainsi que l'Atlas du terrorisme, le hors-série du magazine Courrier International daté de mars 2008, et qui consacre un article au FARC, un hors-série dont nous serons partenaires le 20 mars prochain dans le cadre d'une émission sur le terrorisme. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Éric Mainviel et Fred Potry, documentation et archivina et RFI, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Claire Destacan, Sophie Gidry, Caroline Chausset et Manuela Bermudez, une réalisation d'Anne Kobilac. Et ben demain, nous serons en direct et en public, j'espère que vous viendrez nombreux, donc au Salon du Livre, pour parler d'une histoire du sionisme.